Bienvenue dans Sors de ta grotte, le podcast qui te booste pour passer à l'action. Passer à l'action de quoi? Tu veux lancer ton entreprise, un projet créatif ou un projet whatever? À la fin de la journée, c'est les mêmes mécanismes et c'est de ça qu'on va parler dans ce podcast. Et aujourd'hui, c'est une première, nous allons recevoir notre première invitée en compagnie d'Élise. Bienvenue à Lou.
Bonjour.
Bonjour Lou.
Peux-tu te présenter et nous dire à qui tu t'adresses et ce que tu leur apportes?
Yes. Du coup, moi, c'est Lou Destep. Je suis coach et écrivaine voyageuse. J'ai à cœur d'accompagner les gens à oser plus être eux-mêmes. En particulier dans le cadre du business. Souvent, les gens, quand ils se lancent, ils ont plein d'injonctions extérieures sur lesquelles ils se calent parce qu'ils pensent qu'il faut faire les choses comme ça. Je les accompagne à aller creuser leur univers, à aller le découvrir et à voir qu'est-ce qu'ils ont d'unique qu'ils peuvent partager. Pourquoi est-ce qu'on va venir les voir eux par rapport à quelqu'un qui a les mêmes compétences qu'eux, par exemple?
Ah bah excellent. Et ce que je trouvais intéressant dans ton parcours, c'est qu'à la base, tu viens de la communication classique. Je crois que tu es designer graphiste. Et en fait, tu t'es rendu compte qu'il y a une grosse dissonance. Enfin, tu me disais, tu montrais des logos. Et du coup, que tu pensais être le meilleur pour la personne. Et en fait, c'était quoi la réaction des gens?
Yes. Quand je t'avais raconté ça, en fait, c'était... Dans ma vingtaine, quand je bossais dans une boîte de communication. Je me rendais compte que quand je proposais à des clients des réponses créatives qui collaient vraiment à leur brief, à leur valeur, à leur énergie à eux et qui allaient attirer les clients auxquels ils voulaient s'adresser, ils allaient toujours préférer une réponse créative plus institutionnelle, qui était leur image de ce qu'ils pensaient, je ne sais pas, qui était classe ou qui était attirant pour les gens. Et souvent, ça n'avait même aucun rapport avec les gens qu'ils essayaient de cibler. J'ai mis quelques années à comprendre, mais pourquoi est-ce que... Parce qu'en fait, ils adoraient la proposition créative qui collait vraiment à ce qu'ils voulaient exprimer. Mais ça les faisait grave flipper.
C'est comme s'ils ne voulaient pas assumer, en fait.
Ouais, exactement. Ils se disaient, mais non, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça et tout, c'est trop risqué. Moi, j'étais dans une boîte de com, donc j'étais pas forcément à un endroit pour les leviers décisionnels, quoi. J'étais en bout de chaîne, donc je ne pouvais pas vraiment... jouer sur quelle proposition est-ce qu'ils allaient choisir. Je n'étais pas aux réunions, en fait. Mmh. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et quand je me suis mise à mon compte j'ai pu être en lien direct avec mes clients, je me suis rendu compte que quand je leur posais plein de questions, en fait, sur eux, sur leurs valeurs, sur leur histoire, sur pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi de faire ça, pourquoi est-ce que ça leur tenait vraiment à cœur, ça les connectait beaucoup plus à ce qu'ils avaient envie d'exprimer. J'ai vraiment pu faire un travail d'accompagnement pour les débloquer là-dessus et puis pour leur montrer de quelle manière est-ce que ça allait vraiment avoir un impact sur les gens auxquels ils s'adressaient. Parce qu'en fait, dans le monde professionnel classique, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... faut faire quelque chose de lisse qui va plaire à tout le monde parce que sinon on risque de perdre des clients et donc on essaie d'attirer un maximum de gens et c'est pas ça a rien de spécifique en fait, on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Les gens avaient super peur de choisir une proposition qui était hyper ciblée parce qu'ils avaient peur de perdre des opportunités autres. Alors qu'en fait, quand tu bosses avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi et qui te choisit vraiment pour ta personnalité et pas juste tes compétences, bah, ça crée vraiment un lien qui est fort entre vous et ils vont vraiment vous faire confiance, ils vont pas chercher à tirer vos prix vers le bas ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est des gens qui vont vraiment respecter ce que vous faites et être super heureux de bosser avec vous, quoi. Donc, c'est que ça polarise vachement plus, ça va repousser toutes les personnes qui sont pas d'accord avec ces valeurs ou qui ne vont pas coller avec votre personnalité.
Et aujourd'hui, tu suis quel type d'entreprise, quel type d'entrepreneur?
Aujourd'hui, bah, du coup, je bosse avec des entrepreneurs, majoritairement encore des femmes, même si c'est en train de changer là, depuis quelques temps. Ça s'ouvre un peu plus. Oui, je m'ouvre un peu plus aussi. Les personnes qui viennent vers moi, c'est principalement des accompagnantes, des thérapeutes, des coachs aussi, et beaucoup des artistes aussi. C'est paradoxal, les artistes, parce que on pourrait se dire qu'ils ont leur univers et qu'ils savent très bien comment le communiquer. Mais en fait, ils vont beaucoup, au niveau de la communication, ils vont beaucoup aller se renseigner sur les trucs marketing qui sont adressés aux gens qui ont des services. Et donc, du coup, bah, ils vont essayer de faire un truc qui colle aux besoins du marché et tout. Et c'est pas du tout adapté vraiment pour eux, quoi. Donc, du coup, c'est pareil, je vais les recentrer sur leur univers. En fait, je vais faire le même travail avec les thérapeutes et les artistes, mais leur approche de base va être un peu différente.
Et ouais, donc justement, donc tu essaies de les amener à plus se tourner vers eux-mêmes à l'intérieur pour savoir sur quel axe communiquer. Mais en fait, pourquoi c'est si dur pour eux? Enfin, qu'est-ce que ça a de différent en fait de créer une communication à partir d'eux-mêmes au lieu de ben, regarder ce qui se fait sur le marché et puis suivre des techniques marketing, business plan, trucs nuches?
Et bah, qu'est-ce que ça a de différent? C'est que on est super habitué à focaliser en fait sur ce qu'on fait de manière générale dans la société, mais encore plus dans le travail. Et du coup, on va focaliser soit si on est sur des services, sur nos compétences, soit si on vend des produits comme les artistes sur ce qu'ils créent en fait. Et du coup, les gens dans les deux cas vont aller voir qu'est-ce que font les autres personnes qui ont les mêmes compétences ou les mêmes produits qu'eux, comment est-ce qu'ils se positionnent, comment est-ce qu'ils communiquent, quels sont leurs prix, tout ça. Ils vont essayer de se caler par rapport à eux. Et en fait, ce qui fait que tu vas avoir vraiment envie de travailler avec quelqu'un ou d'acheter l'œuvre d'un artiste, c'est pas seulement le médium qu'il utilise ou les compétences qu'il a, mais son univers, sa personnalité. En fait, c'est quand on dit ah ouais, tu trouves des clients parce que tu as des contacts et tout, et ben en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un lien personnel avant avec la personne qui fait que bah, du coup, il y a déjà une familiarité. Et qui fait qu'on a envie d'aller voir vers cette personne parce qu'au-delà des compétences, ben, on la connaît. Et en fait, c'est ça que je fais avec eux, c'est je vais les refocus sur qui est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils défendent, qu'est-ce qu'ils ont envie de, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont envie de que ça change dans le monde. Est-ce que ça change dans le monde? Ça peut être j'ai envie d'apporter du beau dans le monde, hein. C'est pas forcément je veux sauver la planète et l'écosystème. C'est vraiment revenir à qu'est-ce que c'est tes valeurs, qu'est-ce qui te touche dans le monde, et ce qui te touche, c'est autant ce que tu aimes que ce que tu détestes, ce que tu supportes pas.
Même limite,
Et
en
en
fait,
fait,
quand on met l'accent là-dessus, c'est, ça rend la personne encore plus attractive. Je veux dire, ah, oh, on a le même ennemi.
c'est exactement ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le côté c'est polarisant en fait. C'est-à-dire que ça va vraiment faire comme un aimant. Il y a des gens qui vont être repoussés par les opinions que tu vas partager, par tes valeurs, par ce avec quoi tu es d'accord ou pas d'accord. Et il y en a d'autres au contraire qui vont se dire ah bah c'est exactement la personne qu'il me faut, je suis trop d'accord avec elle. Et ça crée un lien émotionnel en fait avec la personne qui fait que tu te sens plus proche et que du coup tu as aussi là où ça joue, c'est que tu as aussi envie de suivre la personne sur le long terme. C'est pas juste ah tiens, j'ai besoin d'un truc aujourd'hui ou tiens, je trouve ça beau ce qu'elle fait, je vais acheter son truc, je repars et je reviens jamais. Là, vu qu'il y a un lien qui est créé, et ben du coup ça crée aussi une communauté de personnes qui vont te soutenir aussi dans tes projets parce que t'as pas toujours la foi au quotidien non plus quoi. Il y a des moments où t'es super down et là bah, quand t'as une communauté de personnes qui est là pour toi, et ben ça t'encourage aussi à partager plus de choses et en fait quand tu crées ce lien et que tu communiques régulièrement là-dessus, bah, les gens vont aussi vu qu'il y a plus d'interactions, c'est plus facile de leur demander des feedbacks. Les gens vont même s'exprimer plus facilement pour dire ah putain, mais moi j'aimerais trop que tu m'aides sur tel sujet, et des fois c'est quelque chose auquel on n'a même pas pensé nous, ou j'aimerais que tu crées un produit comme ci ou comme ça. Et en fait du coup bah, vu qu'il y a un lien qui est fait et que la communication elle est plus simple, bah, les gens te disent carrément de quoi est-ce qu'ils ont besoin, et c'est plus facile aussi d'aller leur demander des avis parce que t'es pas dans une position de j'ai pas le droit à l'échec quoi, sinon je ferme la boutique et c'est terminé. Là t'es plus dans quelque chose de coopératif où tu vas échanger avec les gens et il y a beaucoup moins de pression. Et puis surtout, bah, quand tu es connecté à ton univers et à tes valeurs et à ce qui te touche, bah, ça envoie pas la même énergie dans tes postes de communication. Tu es juste beaucoup plus dans une énergie de kiff ou de colère quand tu es super énervé contre quelque chose. c'est beaucoup plus vivant en fait. Donc. Ça n'a pas du tout le même effet que quelque chose qui est super lissé et pseudo-fait pour attirer des gens de techniques marketing qui, en général, ne te correspondent même pas. Pareil, les gens ils vont aller vers des médiums qui ne leur correspondent pas forcément pour s'exprimer. Ils vont se dire, je ne sais pas, ah, les vidéos, c'est le truc qu'il faut faire pour... pour communiquer, pour être vu, surtout moi j'écris, mais alors c'est super long, personne ne va me lire, je vais surtout pas utiliser ce médium là ou j'adore parler mais j'aime pas être vu, bon bah je vais pas utiliser ça, je vais pas faire des podcasts. Alors que en fait quand tu vas vers ton mode de communication qui est que tu as le plus développé, avec lequel tu es le plus à l'aise, bah c'est pareil, tu es beaucoup plus dans une énergie de kiff et ça c'est super. C'est les gens naturellement vont lire. Moi, je fais des pavés sur Facebook. Des fois, je me dis, putain, mais laisse tomber, ça fait 18 pages au moins sur une feuille. Personne va lire. Et en fait, c'est pas une question de longueur, de format, de quoi que ce soit. C'est une question de l'énergie avec laquelle tu écris le truc, où tu crées ce que tu as envie de. Tu partages ce que tu as envie de partager. Et c'est ça qui est capté en fait. Vraiment à un niveau énergétique, je pense que les gens ils sentent un truc et du coup ils vont aller lire ton contenu et ça a beaucoup plus d'impact.
Mais c'est clair que bon, il y a plein de formations aujourd'hui hein, pour se former à tout, comment écrire des newsletters, comment faire des vidéos, comment ça. Et bah, c'est clair que moi mon expérience a été bah, voilà, j'ai accès à toutes ces choses là. Je vois bien que là, c'est le plan Aïda, attirer l'attention, je ne sais pas quoi, truc chouette et tout. Bah, je suis bloquée, je ne sais pas quoi dire. Après, je pense que c'est bien pour donner des lignes directrices, pour savoir un peu par quoi commencer. Mais finalement, c'est des techniques et je pense que la bonne approche, c'est comme toi, c'est partir de l'intérieur et identifier ce qui nous fait kiffer, ce qui est facile, ce qui est... Et ensuite, par la suite, on peut s'amuser à optimiser certaines choses. Mais je crois que les gens ont tendance, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Élise, les gens commencent à faire les choses à l'envers, en fait.
Oh oui. je faisais les choses à l'envers aussi. Et je pense que... je pense aussi, c'est... Et d'ailleurs, ça va introduire la question suivante. Moi, je ne communiquais pas justement parce que les techniques que j'utilisais étaient trop lisses et que j'avais pas commencé en fait de l'intérieur. Et en fait, justement, derrière, il y avait une peur aussi d'aller dans cet intérieur. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a peur aujourd'hui de montrer notre travail, de montrer nos valeurs, de montrer en fait ce qui fait de nous cette personne et pourquoi on est là aujourd'hui en fait.
Pourquoi on est là aujourd'hui ? C'est une... la question d'avant, ça sera plus simple. en fait, c'est simple. Hein. C'est quand tu grandis socialement, on t'apprend à te lisser pour bien te comporter, pour te faire accepter, pour trouver un boulot, pour trouver quelqu'un, pour tout un tas de choses. Et c'est des systèmes que inconsciemment tu as intégrés pour survivre et qui ont été très bien à l'époque où tu en avais besoin pour survivre parce que tu ne savais pas comment faire autrement. Maintenant, quand tu fais le choix conscient de « Ok, j'ai envie de aujourd'hui montrer qui je suis », et ben forcément, tu vas te retrouver face à toutes tes défenses inconscientes en fait, qui montent et qui font waouh. Non, 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 on va pas faire ça.
Reste comme tu es, ne change ça. Pas.
C'est ça. Et en fait, du coup, ça, c'est ce qui fait que bah, quand tu as envie de te montrer, t'as un niveau, je suis en train de montrer un truc mais on est en audio, ça sert à rien. T'as un niveau de kiff, de motivation qui est on va dire je peux pas le montrer, on va dire il est à 20% et tu vas te retrouver face à un système de survie en face de peur et tout qui est à 80%. Et donc, du coup, tu vas dire, ouais, non, peut-être, je ne vais pas y aller, en fait. ça va être cassé, en fait, dans ton élan. Et même des fois, tu ne vas même pas y aller parce que tu dis que c'est impossible, faute d'avoir des exemples extérieurs que c'est possible. Ouais. Il y a des artistes que j'ai accompagnés qui avaient envie de créer des choses et en fait, elles se disaient... Mais c'est pas vraiment ça n'a pas intéressé les gens, c'est personne fait ça, et puis comment je vais vendre un truc pareil. et en fait c'est pas la question, c'est on est vraiment bien habitué à tuer nos élans dans l'œuf, alors que quand tu es entrepreneur, ce qui est important, c'est au contraire de tu as une idée, et ben tu vas dire ok, qu'est-ce que je peux faire là pour je sais pas moi, la lancer dans les 24 heures, si je dois la lancer dans les 24 heures, qu'est-ce que je fais. Peut-être que ton idée elle est grandiose mais peut-être qu'il te faut des années ou des mois pour la mettre en place et tu sais pas si à la fin de ces mois et de ces années ça va fonctionner ou pas. Ce serait super con de mettre tous ces efforts pour que ça ne fonctionne pas à la fin. Du coup, il y a vraiment un truc de retour à expérimenter sans pression. Alors, c'est facile à dire, bien sûr. Mais si tu expérimentes plein de petits trucs au quotidien, en fait, ça va forcément être beaucoup moins grave si tu te plantes. Parce que en fait, tu essaieras autre chose demain ou tu vas modifier ce que tu as proposé. Tu vas dire, ok, il y a des gens qui sont intéressés, mais pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas? Tu leur poses des questions en fait. On n'est pas forcément habitué à demander des feedbacks parce que globalement, on a peur que les gens ils nous disent, ça ne plaît pas, c'est de la merde. alors qu'en fait, on n'est pas forcément... d'emblée connecté à ce que les gens veulent et il n'y a pas forcément d'autres moyens que de leur demander. On peut bien sûr aller se renseigner, faire des études de marché et tout ça, mais dans bien des cas, quand tu proposes quelque chose qui est unique, bah, tu n'as pas forcément les réponses qui vont tomber du ciel, quoi. Donc, il faut demander aux gens.
Clairement, hein, surtout par rapport à l'art, où ce n'est pas forcément une question de est-ce qu'il existe un marché ou pas. Voilà. Et puis, c'est intéressant parce que ce que tu nous dis, c'est qu'il ne faut pas rester caché dans la grotte de l'artiste, l'antre de l'artiste qui est perfectionniste, qui essaie de faire son truc pendant 10 ans dans l'ombre. Et puis, sortir et espérer que ça marche. Et là, ce que tu proposes, c'est faire des itérations plus rapides et puis tout de suite, constamment, en fait, être en lien avec la communauté qui t'entoure, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est revenir, en fait, à la curiosité. J'ai quelque chose qui me fait kiffer. Je vais le proposer tout de suite. Quand on avait discuté il y a quelques jours... Je t'avais parlé de... J'étais allée prendre une douche. Beaucoup d'idées dans la douche.
Oui. J'adore cette anecdote, écoutez bien.
J'étais allée prendre ma douche et je me suis dit, j'ai trop envie de proposer les séances de coaching d'une heure que je propose habituellement, mais de les proposer au niveau du prix en tirant à pile ou face, en fait. Soit c'est temps, soit c'est gratuit, en fait. Et... ça me faisait trop marrer parce que je me suis dit, ouais, les gens, ça les met dans une énergie de jeu, dans une énergie de hasard, dans une énergie de « Ah, peut-être que je peux avoir une séance gratuite !» c'est dans une énergie de foi aussi, d'aller essayer, quoi. Et j'aimais bien que ça touche, ça vienne au niveau du prix, en fait, et que ce soit déjà la porte d'entrée avant même de faire la séance. Et sur le coup, j'aurais pu me dire, j'y ai pensé, hein, d'ailleurs, je me suis dit, ah, mais peut-être qu'il y a des gens, je ne sais pas, ils vont être dégoûtés au moment où ils vont devoir payer s'ils tombent sur le mauvais côté de la pièce, tu vois. et en fait, je me suis dit, non, c'est bon, en fait, ça te fait kiffer, ça te fait marrer. Moi, j'étais OK avec le fait que ce soit gratuit ou payant. Donc, dans les deux cas, ça m'allait bien. Et je me suis dit, en fait, j'en sais rien, ce que les gens, ils vont penser de ça. Donc, j'ai juste fait un post en 2 minutes. Et puis, en fait, comme j'étais dans cette énergie de jeu et de kiff et de « j'ai envie de proposer ça, ça me fait marrer », et en face, les gens qui ont voulu s'inscrire, alors il y en a deux qui sont inscrits rapidement et puis parce qu'il y avait deux places. Et il y en a d'autres qui m'ont dit « mais moi aussi, j'ai envie de jouer. Quand est-ce que tu en proposes ?» Et du coup, c'est ça que je disais tout à l'heure sur... l'énergie que tu vas communiquer, les gens qui ont envie d'être dans cette énergie-là aussi, ils la captent. Et du coup, j'ai attiré des gens que j'aurais peut-être pas attiré sans être dans cette énergie-là, en fait.
C'est ça, en fait. Si tu communiquais que à travers de tes méthodologies, qu'est-ce que tu fais, tout ça, bon. Mais...
ouais, ou si tu te dis « Ah je vais pas proposer ça parce que c'est pas un business plan très durable. » Mais tu t'en fous, en fait. C'est juste, tu as envie de proposer ça à l'instant T. Propose ça. Et demain, tu feras autre chose parce que tu auras envie de faire complètement autre chose. Et pour moi, l'entrepreneuriat, plus encore que d'autres... je sais pas, quand tu es en entreprise et qu'il y a plein de personnes, c'est encore différent. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une porte à l'expérimentation et à tester plein de trucs. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on se lâche la grappe sur la pression qu'on se met et qu'on revienne à un truc qui est plus de l'ordre du jeu et de la curiosité et que t'es là, en fait. T'es là parce que ça te fait kiffer à la base. Sinon, tu ne te serais pas lancé. C'est hyper difficile quand même d'être entrepreneur. Enfin, ça te demande d'être responsable à 100% de tout ce que tu fais. De tout ce que tu fais dans tous les domaines, hein, parce que tu as plein de casquettes. Si tu fais pas ça pour t'amuser, ça va vite
pourquoi
être...
Pourquoi tu t'infliges ça ?
Exactement, ça va vite être pesant. Donc, c'est hyper important, en fait, d'être connecté à pourquoi est-ce que tu fais ça sur le fond et qu'est-ce qui te fait kiffer dans l'instant, en fait.
Moi, j'ai juste une petite question. Ce qui peut intéresser nos auditeurs, pour les personnes qui sont tombées sur le pas gratuit, comment ils ont réagi finalement ?
Eh bien, personne n'est tombé sur le pas gratuit.
Ah !
Ils sont tous les deux tombés sur les gratuits. Donc,
D'accord. Ok. Bah, dis donc.
Wow. Et, ouais, moi, j'aurais été OK dans tous les cas. Et je pense que quand tu t'inscris aussi, tu t'inscris parce que tu es d'accord aussi pour les deux options, en fait. T'as envie de jouer, c'est tout.
Non, mais presque limite, ouais, je tombe sur gratuit. La séance se passe hyper bien. Je dis non, mais c'est pas grave si c'était gratuit. Je paye la séance, c'était tellement bien. Voilà.
Ouais, c'est vrai, mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Il y a quelqu'un qui a fait carrément un rêve la veille de la session. Il m'a dit j'ai vu face deux fois, du coup, je vais dire face.
C'est pas vrai.
Donc, tu vois.
Ça a créé vraiment une émulation. Hein.
Mais ouais, ça fait triper les gens au point qu'ils en rêvent. Je me suis dit, c'est quand même fou.
Donc, la conclusion dans tout ça, c'est de suivre en fait ces idées sous la douche, finalement.
Exactement. C'est ne pas attendre de te faire gangréner par tout ce que tu peux projeter sur ton idée et la lancer rapidement, en fait. Et y compris la lancer quand tu n'as pas forcément... quand tu as l'idée, mais que tu ne sais pas forcément comment la mettre en place, ça peut être aussi commencer à en parler autour de toi ou à en parler à ta communauté, voir comment est-ce que ça résonne. Ce n'est pas grave si tu n'as pas déjà ton plan de A à Z, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de jauger, ok, est-ce que ça résonne quand je parle de ça autour? Et si ça résonne, ok, bah c'est quoi l'étape d'après, en fait? Et peut-être que si tu as des questionnements à ce stade, tu peux aussi les partager. C'est vraiment revenir à un truc qui est, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est plus coopératif. T'es pas tout seul face à toi-même, en fait. Sinon, c'est dur.
D'ailleurs, c'est un des pièges hein, qu'on avait évoqué, je crois, dans le premier épisode, c'est bah, avancer seul, quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors, t'es tout seul dans ta tête, tu dois penser à plein de choses, et puis tu fais des hypothèses sur des hypothèses. Ben, tu t'en sors pas.
C'est ça. Ou tu vas demander ton avis, tu vas demander un avis sur ton travail à ta mère ou à tes potes qui ne sont pas entrepreneurs ou à des personnes qui ne sont pas du tout habilitées à te donner un avis à part te mettre plein de peur en plus sur le dos. Ça, c'est aussi un truc que les gens font souvent quand ils commencent. Ils n'ont pas forcément... de communauté, bah déjà de communauté tout court, mais pas forcément d'autres entrepreneurs dans leur entourage. Ou alors ils en ont, mais bizarrement ils font pas appel à eux. Et en fait, je pense que c'est important quand tu vas demander un avis ou quand tu reçois un avis ou une critique, de te dire, ok, est-ce que cette personne, elle est soit elle correspond aux personnes auxquelles j'ai envie de m'adresser, soit elle est déjà plus avancée que moi ou en tout cas sur la même route que moi, pour que ce soit pertinent en fait, de prendre en compte cet avis ou cette critique. Souvent, on va les demander à des proches et on va donner beaucoup de poids à ce qu'ils disent, alors qu'en en fait, ils ne sont pas du tout dans le même univers, même professionnellement.
Alors souvent, les proches, on ne leur demande pas, ils viennent d'eux-mêmes.
Raconter.
C'est vrai. Voilà, ta team Micheline, j'allais en parler.
Non, mais on l'aime bien. Mais oui. C'est vrai qu'on a abordé ça et c'est marrant à quel point on préfère faire le minimum d'efforts en allant voir nos proches quand on le fait, alors que c'est pas pertinent, et à quel point ça fait peur d'aller voir les vrais gens en fait à qui on voudrait s'adresser. Enfin, en tout cas, quand on part un peu de zéro, ça peut être très dur. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand même, on essaie de s'entourer soit des gens qui font la même chose que nous ou qui sont sur la même route, comme tu dis. Mmh. Et c'est là, au fur et à mesure, que finalement, on est des mammifères. Donc, on a besoin de se rassurer entre nous et il faut trouver la bonne micro-tribu pour être bien. Et ce qui s'est passé avec Sors de ta grotte, ça s'est un peu passé comme tu as dit. C'est j'ai une idée. J'ai lu un livre qui s'appelle « Montrer votre travail » qui parlait bah, justement de comment montrer son travail et disait un peu ce que tu dis, que on se concentre trop à montrer juste le produit ou ce qu'on fait et on montre pas en fait toute l'œuvre. En fait, c'est le parcours en fait, c'est pas mal de choses. C'est comment m'est venue l'idée la première fois, c'est montrer un peu ce que je fais, c'est raconter des histoires, c'est tout ça. Et ça m'a tellement émoustillée de ce livre, j'ai dit, mais oh là là, mais j'ai une épiphanie. Et j'en ai commencé à en parler autour de moi. Mais je n'avais pas encore d'idée de groupe et tout ça. Et c'est des gens qui me disent, hey, mais tu fais un groupe WhatsApp, tu fais un groupe Facebook, on fait un truc. Et après, pour développer cette micro-communauté, ben, je me suis beaucoup basée sur les feedbacks des autres. Parce que sinon, oh, si j'avais été seule dans ma tête à réfléchir à tout ça, j'aurais arrêté. J'ai dit, désolée, on annule, je rentre à ma maison.
Tu voulais à un moment donné. Hein.
Ouais, c'est vrai, heureusement que vous m'avez retenu.
Tu voulais rentrer dans ta grotte.
Ouais. Ah ben, c'est tellement confortable. C'est un peu humide, mais c'est confortable.
Mais le concept était tellement attirant que, en fait, alors personnellement, après, je ne sais pas quels ont été les retours des autres. Mais moi, je l'ai poussé, je fais, mais non, moi, j'aimerais bien avoir ce groupe. Juste pour expliquer un petit peu aux auditeurs, avant Sors de ta grotte, je communiquais zéro fois. J'avais aucune communication. J'ai fait Sors de ta grotte, le groupe Facebook. En 2 semaines, j'avais planifié mes posts pour le mois, en fait.
C'est une vraie machine de guerre. Hein. On a rien compris, quoi. Du jour au lendemain, mais c'est bon, je sais ce que je veux, où je vais, je sais de quoi je veux parler. Hop, hop, hop. Voilà.
Bon, après, ça a un peu changé au cours des mois, mais ça, c'est pas grave. C'est un peu l'évolution de la personne qui évolue avec son projet également. Donc, il y a des choses qui ont évolué au cours des mois. Mais c'est vrai que qu'avec Sors de ta grotte, il y a eu un déclic. C'est j'ai envie de parler, mais j'ai envie de parler de choses qui m'intéressent. J'ai envie de parler de mes projets, mais pas que des projets entrepreneuriaux. Il y a d'autres projets dans la vie. Il y a des projets personnels qui peuvent également intéresser les gens. En plus, moi, je suis photographe également, donc la photo, ça peut intéresser les gens aussi, ce côté un petit peu créatif. Et c'est vrai que Sors de ta grotte, ça m'a permis de trouver les éléments sur lesquels j'avais envie de parler. Et de plus m'intéresser à ce côté, j'aime bien ton expression Lou, ce côté lisse, ce côté marketing. J'aime beaucoup ça parce qu'en fait, c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est... Pour beaucoup de contenu, c'est lisse. Et ouais, c'est tous les mêmes.
T'as entendu 350 fois.
T'as plus envie. T'as envie de te désabonner, hein. Quoi.
Bah, c'est ça. T'as pas envie de t'abonner tout court, en fait.
Mais après, voilà, je veux pas froisser les gens. C'est juste que moi, ça m'a beaucoup inhibée. Et ça fait que je me dis, bon, si c'est déjà comme ça, qu'est-ce que je peux ajouter? Alors qu'en fait... finalement, c'est ce process de, comme tu disais Lou, de curiosité, d'expérimentation. En fait, c'est retrouver un peu cette joie d'enfant de se dire ah, j'ai trop envie de parler de ça ou j'ai trop envie d'organiser ça. Et c'est bien que ça a été peut-être inhibé. Enfin, je sais pas si c'est bien que ça a été inhibé dans l'enfance ou à un moment donné, tu vois. Mais en fait, l'essentiel, peut-être la seule chose à comprendre de cet épisode, c'est que c'est un peu cliché, mais c'est vraiment réveiller l'âme d'enfant. Et voilà, maintenant, on est adulte, on est mature. Donc, on sait qu'il ne faut pas mettre la main sur le feu, des choses comme ça.
On est mature, parle pour toi. Moi, je ne sais pas.
Bon, on est capable de survivre, on va dire plutôt. Et après, ben, on peut retrouver cette énergie. Parce que quand on est enfant, mais on court pendant des heures. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Je ne sais pas, on peut passer 8 heures à faire le même truc. Enfin... Je ne sais pas, on est sans limite.
Parce qu'on ne se censure pas, en fait. Donc, on est constamment connecté à notre énergie. On fait un truc, on a envie, on le fait, on ne va pas se poser la question. Nous, on se gangrène le cerveau pendant 10 ans, donc forcément, ça nous bouffe un peu d'énergie.
Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de t'inviter, parce que maintenant, c'est comment on arrive à se reconnecter à cette énergie-là, comment on arrive à reconnaître notre propre univers qu'on a envie de tisser et communiquer à d'autres. Et tu nous disais que tu utilises les archétypes. Qu'est-ce que c'est?
Yes. Alors, c'est les archétypes de marque. Je vais essayer de faire un petit topo rapide avant de parler de comment je les utilise. Les archétypes de marque, ils dérivent des archétypes de Carl Jung, psychanalyste. Et en fait, ils ont été, alors ils sont beaucoup utilisés Aux États-Unis, on commence à en entendre un peu parler en France, comme d'hab, on est un peu en retard sur ce genre de trucs. En fait, les archétypes, il y en a 12, et c'est des archétypes qu'on a tous dans notre inconscient collectif. Le magicien, le roi, le bouffon, enfin, il y en a tout un tas, ouais, il y en a 12. Et en fait, ils sont utilisés en communication en général par les très grandes marques parce que ça les aide en se calant sur un archétype ou deux, pas beaucoup plus en général. Ça les aide à s'adresser directement à l'inconscient des gens dans leur communication. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça aide à créer un lien émotionnel en fait. Quand tu utilises les archétypes, il y a tout un univers visuel, vocal, une personnalité, des valeurs que ces archétypes qui sont des personnages en fait, forcément, ils ont des valeurs qu'ils ont envie de défendre, des trucs dont ils ont super peur profondément. Ils ont des qualités particulières aussi. Et en fait, moi, là où je les utilise, parce que, ah oui, du coup, comme ça va faire écho aux personnes qui se sentent reliées à cet archétype-là quand tu communiques dessus, du coup, tu es directement attiré, en fait. Tu as envie, tu sais pas pourquoi, ça crée un lien avec la marque, tu es hyper attaché à elle et tu vas suivre tout ce qu'elle fait. Apple, par exemple, ils ont l'archétype du magicien et du créateur. Et pour eux, c'est les créatifs qui vont changer le monde et ils les aident là-dedans en leur proposant des produits qui sont super simples et intuitifs d'utilisation. Et en fait, du coup, les gens, dans leur communication, il y a quelque chose qui est hyper, hyper épuré, hyper magique et avec lequel tu peux créer très facilement. En fait, ça t'ouvre une porte pour créer qui est facile d'accès et tu n'as pas besoin de t'embêter avec la technique et tout ça.
C'est ça, même à la limite, quand tu achètes. Enfin, moi, la première fois que j'ai acheté un Mac, en fait, je me suis un peu acheté le rêve de pouvoir faire de la musique sur ordi et faire du montage vidéo, tu vois. Et
Ah, c'est ça, ouais,
je ne le
t'as
faisais pas
directement.
encore. Mais je me serais pas projeté comme ça sur PC, tu vois. Je me suis dit, oh, c'est quoi les logiciels? C'est quoi les usines à gaz, tu vois. Donc,
Ouais,
ouais,
alors
je
que tu
comprends.
pourrais faire la même chose potentiellement sur un PC, mais parce que Apple communique vachement là-dessus, du coup, t'es naturellement, tu penses à eux en fait quand tu t'as envie de faire des trucs créatifs. Et du coup, ça leur a permis aussi de changer complètement de marché. Parce qu'au début, ils vendaient des ordis, ensuite ils sont allés avec les iPods dans le milieu de la musique, dans le marché de la musique, et ensuite dans le marché de la téléphonie. Et à chaque fois, les gens leur ont dit, non, mais vous allez vous cracher, vous ne changez pas d'un marché comme ça à un autre, ça ne va jamais fonctionner, quoi. Et en fait, ça fonctionnait de fou parce que leur communauté d'avant les a suivis dans le nouveau marché et ils étaient tellement fan de ce qu'ils créaient, parce que c'est ça en fait, t'as pas juste des clients, t'as des fans, vu que t'as un lien fort avec eux. Et du coup, les gens, ils faisaient la queue toute la nuit avant la sortie de leur dernier produit. T'as des trucs, ça paraît aberrant, mais c'est parce qu'en fait, ils créent ce lien-là
C'est
avec.
presque comme si c'était des œuvres d'art à chaque fois, en fait, hein.
Ouais, en plus, ils travaillent bien pour que ce soit un événement à chaque sortie.
Ouais, il y a un packaging aussi qui fait que c'est une œuvre d'art, en fait, quand tu la reçois, avec la petite boîte, avec enfin, il y a vraiment une
Ouais.
expérience client
Mais de fou.
hallucinante, quoi.
De fou. Jusqu'au parfum de quand tu ouvres la boîte qui est le même et qui du coup te rappelle
Magique.
ton premier achat.
Ah,
Ouais,
excellent.
ils sont forts dans leur communication à tous les niveaux. Et c'est ça qui est intéressant avec les archétypes, c'est que du coup, ça t'invite à à développer ton univers et pas juste en termes de communication sur les réseaux, mais à le voir comme une expérience que tu vas offrir à tes clients. Et du coup, tu conçois ce que tu as envie d'exprimer dans chaque étape de ton entrepreneuriat, de ta création en fait. Et ça commence dès l'instant où les gens entendent parler de toi, le lien que tu crées avec eux, quand ils sont clients, quand ils ont terminé un travail avec toi, qu'est-ce qui se passe à chaque étape. Tu peux infuser tes archétypes là-dedans. Maintenant, moi, là où je les utilise, évidemment, il y a tout l'aspect communication dont on vient de parler, mais je les utilise en amont de ça, vraiment pour aider les gens à se reconnecter à eux. Parce que, en fait, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu es super focus sur ce que tu fais, sur tes compétences et tout ça, plutôt que sur qui t'es, et ben, le fait de travailler avec les archétypes, les questions que je peux leur poser, les univers que je peux leur montrer, c'est toujours plus facile quand tu es branché à l'extérieur d'aller repérer qu'est-ce qui te parle à l'extérieur plutôt que d'aller te brancher à toi à l'intérieur. Mmh. Et donc, du coup, ça permet une première approche où ils vont reconnaître des parts de leur univers. On dirait, putain, ça m'appelle, ça me parle, ah ouais, ça, telle valeur, ah, ça, j'ai telle peur, machin. Ça leur donne quelque chose qui est pas eux, mais qui est proche d'eux, en fait. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une porte d'accès. Ça fait comme un entonnoir où tu vas pas te disperser en allant coller à des communications qui te parlent pas du tout, des techniques extérieures. Quand tu cernes beaucoup mieux c'est quoi ton univers, si par exemple, je prends un exemple précis, l'archétype du maverick, le rebelle, il y a des gens qui vont être super attirés par son côté rentre-dedans, où ils ont un langage super familier tout le temps quand ils s'expriment, ils ont le feu, ils adorent provoquer les gens et tout ça. Alors qu'il y en a d'autres qui vont avoir un langage qui va être beaucoup plus élaboré, sophistiqué, posé, tout ce que tu veux. Mais par contre, dans ce qu'ils ont l'énergie, dans ce qu'ils ont envie de changer dans le monde, il y a cette énergie du rebelle qui a envie de faire tomber le statu quo, de révolutionner un domaine. Et donc, du coup, d'approcher un archétype dans son ensemble, la personne, naturellement, va être attirée et repoussée par certaines parts de cet archétype-là. C'est aussi intéressant parce que ça permet de voir aussi quel jugement, des fois, tu vas projeter sur un archétype et donc sur certaines parts de toi. Ça, c'est hyper intéressant dans la partie un peu développement personnel, parce que les gens, souvent, ils vont avoir mis un ou deux archétypes un petit peu sous le tapis parce que ils ont pris trop cher quand ils étaient jeunes en essayant de le sortir. Ou alors, ça a fait partie vraiment d'eux, mais en gros, ils ont évolué et ils ne voient plus que l'aspect négatif de cet archétype. Ils ne veulent plus en entendre parler. Et en fait, ça les reconnecte à des parts aussi qu'ils ont mis à l'écart. Et ça permet pour moi une réunification de tout ce qu'ils sont, en fait. Et c'est vraiment une partie du travail que j'aime beaucoup. Ça fait revisiter leur histoire aux personnes et c'est marrant de voir que dans leur communication au fil du temps il y a des archétypes qu'ils savaient qu'ils étaient là mais qu'ils préféraient laisser en arrière-plan parce que c'était plus safe, et au fur et à mesure de l'accompagnement ou plus tard les mois passants, ils se disent eh, finalement en fait j'ai bien envie de le sortir maintenant. Et du coup, ouais, ça les aide à identifier ces parts-là.
Du coup, si tu comprends bien, c'est... Ah, vas-y, je te laisse continuer.
Non, non, vas-y,
Du coup, c'est, je vois ça comme un prétexte, c'est ces archétypes, en fait, pour lever les inhibitions, en fait. Enfin, c'est-à-dire, bon, ben... Ah, d'accord, en fait, j'osais pas trop utiliser cet archétype-là, mais en fait, je le trouve cool, et puis pourquoi pas, après tout, et puis voilà, et hop, je m'y mets. Mais après, j'imagine, ça agit plus dans l'inconscient. Je pense pas qu'on y pense tous les jours à ces archétypes, mais...
Non, mais ça te permet d'identifier aussi, tu vois, dans les personnes qui t'inspirent, tes modèles, ça te permet d'identifier, là, en général, t'as pas 15 000 archétypes dans tes modèles aussi. Il y en a deux, trois qui vont revenir 15 fois, quoi. Du coup, ça te rend plus attentif aussi à ton intérieur, mais à ce que tu vas observer à l'extérieur et donc d'où est-ce que tu peux prendre de l'inspiration. Et quand tu vas ensuite vouloir créer ta communication graphique aussi, c'est carrément plus facile pour un graphiste quand il a un archétype pour ne pas taper complètement à côté de l'univers de la personne. Il y a vraiment un travail de qu'est-ce qui te parle spécifiquement dans l'univers de cet archétype qui va pouvoir servir de brief créa ensuite. Parce que la personne, t'as pas besoin, en fait, comme c'est compris instinctivement, l'univers graphique, et ben, les gens qui sont pas, qu'ont pas de, comment dire, qu'ont pas de connaissances sur le graphisme, ben, ils comprennent instinctivement, grâce aux archétypes, comment je galère à exprimer ça, c'est ouf. Il y a un blanc, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête.
Non, mais en
J'ai
fait,
éternué
ouais,
cette phrase.
je pense qu'ils reconnaissent instinctivement, enfin, à partir de là où ils sont plus conscients des archétypes, bah, ils savent où chercher, ils savent reconnaître en fait ce qui colle à leur univers, ils arrivent mieux à
Ouais, c'est ça.
transmettre.
C'est ça, c'est qu'ils vont comprendre, ah tiens, cette typo, ça exprime ça. Il n'y a pas besoin d'aller les éduquer graphiquement, en fait. Ils comprennent tout de suite ce qui les attire. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile d'aller faire quelque chose qui leur correspond, en fait. Et ils vont sentir quand ça s'est décalé de leur univers aussi, du coup. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que... Bah ça, c'est complètement déconnecté des compétences de ce que fait la personne, dans le sens où, du coup, ça la recale directement sur elle, sur les sujets qui l'intéressent, sur ses valeurs et tout ça. Et pour des artistes, notamment, ça les recale sur ah, bah ok, je vais pas juste montrer mes créations, mais je vais aussi montrer. Mon univers, mon atelier, quels outils est-ce que j'utilise, c'est quoi mon process créatif, quelles sont mes inspirations, qu'est-ce que je fais quand je suis bloquée, tiens là j'ai essayé de faire un truc mais ça a merdé, mais en fait ça fait partie du process et je vais le montrer aussi. Parce qu'en fait ils ont conscience que les gens viennent pas juste pour acheter une création, mais ils viennent aussi parce qu'ils sont attirés bah, par l'archétype du créateur. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre de... c'est pas une vie par procuration, tu vois, mais c'est juste les clients que tu vas avoir, ils sont soit artistes eux-mêmes, soit ils aimeraient l'être, mais en tout cas, ils sont attirés par tes créations et par ta vie d'artiste, en fait. Et souvent, on n'est pas du tout focalisé sur quelle part de notre identité peut parler à d'autres personnes.
Du coup, là, c'est le travail complètement inverse. Donc, au lieu d'aller chercher dans la concurrence, se comparer aux autres, voir un peu qu'est-ce qui fait, ah oui, je suis dans telle industrie, du coup, il faut que ça ressemble à ça. Tu pars de l'intérieur et à partir de là, ça t'inspire. Et voilà, tout devient plus intuitif. Et finalement, bah, tu te poses moins de questions, tu fais et puis tu testes. Et puis, oh, c'est magnifique, Lou! Ben, je pense qu'on va conclure. Moi, je ne sais pas, Élise, qu'est-ce que tu retiens de cet échange?
Ouh, beaucoup de choses. Je pense que d'ailleurs, je vais les réécouter parce que c'est vrai que toute cette histoire d'archétype, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Je n'avais pas du tout réfléchi ma communication comme ça, donc je pense que je vais réécouter l'épisode après.
Super. Et ben, écoute, moi, ce que je retiens, c'est que voilà, retrouver que pour finalement se libérer, sortir de sa grotte, c'est important de revenir à soi, retrouver un peu cette joie, ce pétillement comme un enfant et assumer complètement ses goûts.
Ça me paraît être une très bonne conclusion, ouais.
Et du coup, un petit mot pour la fin, Lou?
Un petit mot pour la fin. Ce que je pensais là, que j'ai pas eu le temps de dire, c'est que quand on parlait d'exprimer un peu toutes les parts de toi et pas juste celles qui sont liées à ce que tu fais dans ton travail, moi par exemple, j'ai à côté du travail de coaching que je fais, j'écrivais tout le temps, j'avais envie de voyager, je fais du shibari et en fait, c'est plein d'autres parts de moi qui j'aurais pu me dire, ouais, mais je vais pas parler de shibari alors que je fais du coaching, c'est quoi le rapport? Et en fait, de parler de ces parts de moi hors travail mais qui m'animent profondément et dans lesquelles moi je vois des liens. Dans ce que je vais chercher, dans ma vision du monde, dans ce qui m'appelle, dans les défis que j'ai et que j'essaye de traverser, dans les liens que j'essaye de créer, du coup, ça va attirer des gens qui, comment dire, quand j'ai parlé de Shibari la première fois, des personnes qui m'ont dit waouh, putain, mais. Oh! Putain, mais arriver à parler de ça alors que t'es coach et putain, et puis que t'es une femme et tout, c'est waouh, ça me casse la tête. Et en fait, du coup, tu t'inspires les gens sur d'autres domaines dans lesquels t'es pas forcément une experte, mais en fait, t'as juste grave envie d'en parler et tu vas en parler, comment dire, d'une manière qui t'est propre. Et du coup, qui par exemple, pour le coup, étaient attirés par l'univers du Shibari, mais qu'ils ont. Ça les faisait flipper parce qu'ils avaient plein de projections sur le type de personnes qu'ils pouvaient en faire. Et d'un seul coup, vu qu'ils me connaissent, ils se disent ah, ok, ça me fait changer de. Finalement, ce truc m'appelle, c'est je vais peut-être aller poser des questions. parce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, que des gens chelous là-dedans.
Finalement, en fait, c'est pas si chelou que ça.
Exactement. Et c'est ça qui est intéressant en fait, pour moi, d'aller montrer toutes les parts de toi. Parce que tu ne sais pas du tout en fait, qu'est-ce que ça aura comme effet sur les autres. Wow. Et ça ouvre des portes qui vont entre les humains, quoi, entre les domaines, les activités, on arrête de tout compartimenter, quoi.
Voilà, soyez plus ouverts, assumez toutes les parts de ce que vous êtes et il y a forcément un groupe de gens qui va vous aimer sur Terre, donc il faut y aller à fond. Super, écoute, Lou, on est trop heureuse. Ah, Élise veut rajouter quelque chose.
D'ailleurs, on va appeler les auditeurs quand même à une petite action.
Ah.
Ce serait intéressant, comme on vous l'a dit dans les épisodes précédents, on est sur Instagram actuellement. Donc, ce serait intéressant que vous veniez nous voir en commentaire pour nous dire justement cette petite chose que vous n'osez pas dire habituellement. Donc Lou fait du shibari, mais peut-être que vous avez une occupation que vous ne voulez pas avouer. à votre communauté. Donc je vous invite à venir nous dire cette petite part cachée que vous n'avez pas envie de dévoiler, en toute bienveillance bien sûr, hein. On n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour juger, c'est juste pour commencer à sortir de notre grotte.
Voilà. Super, Élise. Ouais,
parce que la vulnérabilité, c'est vraiment ce qui va créer du lien avec votre communauté. Arrêtez de montrer la partie super parfaite de vous. C'est pas que c'est chiant, mais un peu.
on
a besoin de gens qui se montrent plus humains, qui montrent les fails qu'ils ont. Enfin, voilà, ça aide tout le monde. Et puis, peut-être que bah, de partager ça, vous allez recevoir un soutien que vous n'auriez jamais imaginé recevoir. Et ce sera un cadeau pour tout le monde. Donc,
Alors, go, c'est parti. Super. Bah, écoute, Lou, on est vraiment très, très heureuse et honorée bah, que tu aies accepté l'invitation pour nous parler de tout ça. Je pense qu'il y aurait de quoi faire d'autres épisodes ou même des ateliers. Donc, voilà, vous me direz, ceux qui nous écoutent, ce que vous en avez pensé. Et bah, juste dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver tes actualités?
Yes, bah, j'ai un Facebook qui s'appelle Lou Destep, Lou L-O-U, et j'ai un site aussi, un site internet loudestep.fr. Si vous tapez ça sur Google, vous tomberez dessus. Le site met plus en avant actuellement la partie écrivain voyageur parce que je reviens d'un voyage, mais voilà.
Bah, on vous souhaite tous une bonne découverte et puis bah, on se retrouve pour la prochaine fois pour un podcast. Merci à tous et à bientôt. Ciao.
Ciao.